chapitre 14. Jean chapitre 14. En lisant au verset 1, Jésus parle à ses disciples et leur dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Et c'est d'ici que je veux tirer notre pensée ce matin. L'idée principale, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Gloire au Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Ce matin, l'idée que nous voulons considérer, c'est la religion et l'évangile. La religion et l'évangile. Est-ce que quelqu'un a remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent la religion aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien lever sa main, qui a remarqué ça? Merci. Il y a beaucoup de gens qui critiquent la religion aujourd'hui. Ça fait partie de notre panoplie post-moderne de critiquer la religion. La critique moderne de la religion peut se tracer en fait au XXe siècle. Avec des idées qui viennent du fin 19e, début 20e. Il y avait un moment, en fait, vers le milieu du 20e siècle, où les gens pensaient qu'on allait bientôt voir la fin de la religion dans le monde. Mais on constate, évidemment, aujourd'hui, que ce n'est pas le cas. En fait, ce que les gens remarquent, c'est que le monde devient de plus en plus divisé entre ceux qui ne croient pas et qui sont véhéments dans leur non-croyance et ceux qui croient, qui deviennent de plus en plus orthodoxes dans leur croyance. Mais c'est la critique moderne de la religion peut se tracer aux idées de trois personnages principaux. Et le premier, c'est Sigmund Freud. Le père de la psychanalyse. Dans la pensée de Freud, l'homme invente Dieu et la religion pour surmonter son insécurité et sa culpabilité. C'est-à-dire, le monde est si difficile et il est si difficile de dominer même sur moi-même que l'homme décide, je vais inventer Dieu, je vais inventer une religion qui va m'aider à surmonter l'insécurité et la culpabilité que je ressens. Il explique que ce qu'il appelle une projection de notre psychose, cette religion qui est inventée, elle est faite pour apaiser un père offensé. C'est pour ça que l'homme invente la religion, selon Freud. C'est pour ça que l'homme invente la religion, c'est pour apaiser un père offensé. C'est-à-dire que dans un certain sens, ce père, qui est Dieu, est inventé pour ensuite être exploité en faisant de la religion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, pour Freud, l'homme invente la religion, invente Dieu, et invente la religion pour, une fois qu'il a fait le mal, il peut faire la religion. Et il peut se déculpabiliser de son mal, de son péché, en faisant de la religion. Si je peux apaiser Dieu, je ne porte plus la culpabilité de mon mal, la culpabilité de mon péché, parce que j'ai apaisé Dieu, j'ai apaisé le Père offensé. Et dans la pensée de Freud, l'homme se justifie lui-même à travers la religion. C'est ça qu'il est en train de faire. Et il dit, bon, je fais ceci, mais je vais aller à l'église dimanche matin et tout va être réglé. Parce que je vais à l'église, Dieu va effacer mon mal. Je peux apaiser Dieu parce que je vais aller à l'église dimanche matin. C'est là comment Freud voit la religion. Le deuxième personnage qui nous aide à avancer cette critique de la religion, c'est Karl Marx. Un des principes de base de Marx vis-à-vis de la religion, c'est que c'est l'homme qui fait, c'est l'homme qui fabrique sa religion. C'est l'homme qui fabrique la religion. Il a appelé la religion l'opium du peuple. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, à cette époque-là, l'opium était un sédatif. Et Marx remarque que c'est ce sédatif que les gens utilisent, que le peuple utilise pour atténuer la douleur qui vient de vivre dans le monde. Il utilise la religion comme de l'opium, comme un sédatif pour atténuer la douleur de vivre dans le monde. Il remarque également que ce besoin d'atténuer cette douleur pour lequel l'homme se tourne à la religion, ce besoin même est exploité par la classe dirigeante. Et c'est ça surtout qui l'ennuie avec la religion, c'est pour ça qu'il veut se débarrasser de la religion. C'est parce que ce besoin de cet opium, de ce sédatif, est exploité par les classes dirigeantes. La religion est exploitée pour justifier les séparations qui existent dans le monde, les séparations de classe qui existent dans le monde, les séparations de culture, etc. La religion est utilisée pour justifier les séparations que Marx voyait dans le monde. Elle est utilisée pour contrôler ceux qui sont à l'intérieur et pour marginaliser ceux qui sont à l'extérieur. C'est ça qu'il voit dans la religion, Marx. Il voit que la religion, qui est cet opium du peuple, est utilisée par les classes dirigeantes pour contrôler ceux qui sont à l'intérieur et marginaliser ceux qui sont à l'extérieur. C'est là sa grande critique de la religion. Et le troisième personnage, c'est Friedrich Nietzsche. Dans sa critique de la religion à lui, sa critique à lui vient du nihilisme. Le nihilisme, du point de vue philosophique, c'est la doctrine selon laquelle rien n'existe au sens absolu. C'est la négation de toute réalité substantielle, de toute croyance. Et dans le sens moral, c'est la négation des valeurs morales et sociales, ainsi que leur hiérarchie qui les supporte. Le nihilisme, c'est de nier tout, On nie tout. Il n'y a pas de valeur dans le monde. Il n'y a pas de moralité. Aucune de ces sortes de choses n'existe. Nietzsche voit toute déclaration de valeur comme un coup de force. Une tentative de prendre le dessus, de dominer sur quelqu'un d'autre. Nietzsche voit toute déclaration de valeur comme une tentative de dominer sur quelqu'un d'autre. Et c'est là sa critique de la religion, parce que si toute déclaration de valeur est un coup de force, alors la religion, dans sa pensée, c'est le plus grand coup de force. C'est essayer de dominer sur les gens, sur les cultures. Et c'est ça la critique de Nietzsche de la religion, c'est que c'est un grand coup de force. Le problème qu'il a, Nietzsche, c'est que si toute déclaration de valeur est un coup de force, alors le nihilisme est le plus grand coup de force qui existe. Parce qu'en fait, ce que dit le nihiliste, il dit à tout le monde, à n'importe quel sujet, c'est moi qui ai raison. Quand il dit qu'il n'y a aucune vraie déclaration de valeur, il est en train de faire une déclaration de valeur. Et il se valorise lui-même et sa déclaration en dévalorisant tout le reste du monde. Alors, on voit ici, on ne peut pas s'empêcher de voir. Le problème du nihilisme, c'est qu'il se réfute lui-même. Et c'est de là que vient la critique moderne de la religion, de ses pensées, de Freud, Marx, Nietzsche. Quand quelqu'un critique la religion aujourd'hui, on va voir ses courants derrière. Mais il faut noter que la critique moderne de la religion n'est pas si moderne que ça. La critique moderne n'est pas si moderne que ça. Un des plus grands critiques de la religion, c'était Jésus. Dans Matthieu 23, on va faire une lecture ensemble, du verset 13 au verset 31. J'aimerais prendre un moment pour le lire ensemble. Matthieu 23, verset 13. Un des plus grands critiques de la religion, c'était Jésus. Il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la Guéhenne deux fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres. Conducteurs aveugles, qui éliminaient le moucheron et avalaient le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Elle est forte, cette critique. Mais il est complètement déchaîné contre la religion, là. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce que Jésus a dit? Je peux identifier au moins 7 choses qu'on trouve dans la critique de la religion de Jésus. Il critique premièrement qu'ils veulent contrôler l'accès à Dieu. Ils voulaient contrôler l'accès à Dieu. Il remarque ensuite qu'il ne tenait pas à la justice d'une façon réelle. Il ne tenait pas à la justice d'une façon réelle. Il n'appréciait pas vraiment et profondément la justice et ce que ça veut dire, la miséricorde. Ils font des disciples à leur commandement d'homme. Ils offrent un chemin qui ne résout rien à la situation de ceux qui le suivent. C'est un coup de force. Ils se font des disciples à eux-mêmes pour dominer sur eux. Ensuite, ils remarquent qu'ils sont matérialistes. C'est l'or du temple qui les gêne. C'est l'offrande sur l'autel qui les gêne. Mais ce n'est pas le temple qui sanctifie et celui qui sanctifie le temple. Ils sont matérialistes. Ils leur reprochent qu'ils ont une religion ultra réglée. Mais il n'y a pas de changement de cœur. Il n'y a pas de changement intérieur. Ils ne font que changer l'extérieur, que nettoyer le dehors de la coupe. Ils ne font que nettoyer l'extérieur. Et par ceci, il semble qu'ils ont purifié leur vie. Par leur religion ultra réglée, ils ont oublié de se purifier le cœur, de purifier l'intérieur. Ensuite, ils critiquent le fait qu'ils se concernent plus de sembler que d'être purs. Non seulement est-ce qu'ils nettoient le dehors et pas l'intérieur, mais ils veulent paraître. Ils veulent paraître. C'est ça qu'ils cherchent, d'être reconnus. Ils se concernent plus de sembler que d'être purs. On veut chercher à être plutôt que de sembler. On veut chercher à être plutôt que de sembler. Et enfin, ils critiquent le fait qu'ils se pensent meilleurs que leur père. C'est-à-dire, ils se pensent meilleurs que quelqu'un d'autre. Mais ils sont issus de leur père. Ils ont la même chair que leur père. Ils sont faits du même matériel que leur père. Mais ils se pensent meilleurs qu'eux. Ils se pensent meilleurs que quelqu'un d'autre qui sont faits de la même chair qu'eux. Alors je veux qu'on on s'arrête juste un moment et qu'on remarque quelque chose dans la critique de Jésus de la religion. On va remarquer que Jésus critique le fait que, un, ils veulent se justifier par leur religion. Ça ressemble beaucoup à Freud. Deux, qu'ils utilisent leur religion pour contrôler ceux qui sont à l'intérieur et marginaliser ceux qui sont à l'extérieur. Ça ressemble beaucoup à Marx. Et trois, qu'ils utilisent leur religion comme un coup de force pour dominer sur les autres. Et ça ressemble beaucoup à la critique de Nietzsche. C'est pour ça que je dis la critique moderne de la religion n'est pas si moderne que ça. Jésus a critiqué les mêmes choses dans la religion, à part les autres, à part les autres choses qu'on a mentionnées. Il avait les mêmes arguments, il avait les mêmes points contre la religion. Ils veulent se justifier par leur propre religion, par leurs propres actions. Ils veulent utiliser la religion pour contrôler les autres, pour contrôler ceux qui sont à l'intérieur et marginaliser ceux qui sont à l'extérieur. Et ils utilisent la religion pour un coup de force. Jésus est véhément dans sa critique de la religion. En fait, quand on le lit comme ça, on voit un Jésus un peu différent, non? Quand on lit tout de suite, une fois, à voix haute, on essaye d'entendre la voix de notre Seigneur à travers. Ce n'est pas le même Jésus que les artistes ont tendance à peindre. Mais c'est le Jésus de la Bible. C'est le Jésus du Nouveau Testament. C'est le Jésus de l'Évangile qui s'acharne contre la religion à un tel point. Il enseignait quelque chose de différent. Il n'est pas venu pour faire de la religion. Il n'est pas venu pour enseigner une religion. Il est venu, il a enseigné quelque chose de totalement différent. Il a enseigné quelque chose qui est complètement à part. Les autres religions du monde ont des maîtres qui veulent montrer le chemin, qui veulent décrire le chemin, qui veulent expliquer le chemin. Mais Jésus est différent. Il dit « Je suis le chemin ». Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. C'est dans sa personne même que se trouve la réponse. Il fait plus que montrer le chemin, il l'est. Il fait plus qu'enseigner la vérité, il l'est. Il fait plus que parler de la vie, il l'est. Il n'offre pas. Gloire à Jésus. Il n'offre pas une nouvelle manière d'exploiter Dieu. En fait, un Dieu qu'on peut exploiter n'est pas le vrai Dieu. C'est un faux Dieu. C'est-à-dire, c'est de l'idolâtrie. Examinez-vous vous-même. Si jamais vous vous retrouvez à exploiter Dieu, exploiter la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Vous êtes idolâtre. Parce que ce n'est pas le vrai Dieu. Si je me justifie moi-même par ma religion, c'est en moi que je crois. Et encore une fois, je suis idolâtre. Si je me sauve moi-même, je suis mon sauveur. Et encore une fois, je suis idolâtre. C'est de l'idolâtrie. Mais l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, que Jésus nous apporte, c'est que, bien que perdus, et ne pouvant rien faire pour moi-même, Dieu lui-même, le seul juste, vient vers moi et se donne pour moi pour effacer mon injustice. Sur la croix, il a gagné mon accès au salut. Dans le royaume de Dieu, la vie est complètement différente que dans les religions des hommes. Seulement à travers la grâce de Dieu qui m'offre ce salut, puis-je être libre de l'esclavage du péché. À travers l'évangile, je peux vivre avec confiance et humilité à la fois. À travers l'évangile et l'évangile seulement, je peux vivre avec confiance et humilité à la fois. Les religions de ce monde font vivre quelque part entre l'angoisse et la fierté. Les religions de ce monde font vivre quelque part entre l'angoisse et l'orgueil. Mais à travers l'évangile de Jésus-Christ, je vis avec confiance et humilité. Ce qui est intéressant, c'est que de l'extérieur, deux personnes peuvent paraître exactement pareilles. Mais ce qui différencie avec l'évangile, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que c'est une humble confiance en Dieu? Ou est-ce que c'est ce va-et-vient entre angoisse et orgueil? C'est là la différence qu'apporte l'évangile. C'est ça qui rend l'évangile différent de toutes les religions du monde. C'est ce qui se passe à l'intérieur. Et bien des gens qui vont dans les églises vivent eux aussi entre l'angoisse et l'orgueil, entre l'angoisse et la fierté, parce qu'ils n'ont pas découvert l'évangile avec la confiance et l'humilité qu'il apporte. Ce n'est pas de mon propre mérite que je suis sauvé. C'est seulement la confiance que je mets en Christ qui me sauve. Et quand on dit de mettre sa confiance en Christ, ça veut tout dire. Quand on dit d'avoir foi en Jésus, de mettre notre confiance en Christ, ça veut tout dire. Parce que ce n'est pas simplement un exercice mental, ce n'est pas simplement un exercice intellectuel de dire « oui, je crois en Jésus ». Mais c'est de lui confier toute ma vie, chaque partie, toutes mes décisions, tous les choix que j'ai, je les confie à lui. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. C'est seulement la confiance que je mets en Christ qui compte. Et à cause de cette confiance, parce que je me confie totalement en lui, je compte ma vie forfaite pour lui. Comme il a dit, si vous voulez me suivre, il faut prendre la croix. C'était quoi cette image de croix? Souvenez-vous que quand Jésus a dit « prenez votre croix », il n'y avait pas encore de calvaire avec Jésus dessus. Il n'avait pas encore été crucifié lui-même. C'est quoi l'image de la croix? C'était l'image de celui qui avait la peine de mort. C'est-à-dire sa vie était forfaite. Et il dit, comptez votre vie forfaite pour moi, pour me suivre. C'est comme ça que vous pouvez me suivre. Quand vous prenez votre croix, quand vous réalisez que vous êtes mort déjà, et que c'est moi qui suis la vie. Je compte ma vie forfaite pour lui. Je prends ma croix à travers la repentance. Ma repentance, c'est ma première approche à lui. Et la repentance, c'est toujours mon approche à lui. À travers la repentance, je reconnais son droit à ma vie. Je reconnais son droit à ma vie. Et c'est ça qui mène à la repentance. Je reconnais son droit dans ma vie et je dis, Seigneur, j'ai plus envie de vivre ma volonté. Mais je veux changer d'attitude complètement. Me tourner vers ta volonté. Et de là, il commence, de ce départ, il commence une transformation totale de ma vie. Il l'a décrit dans Jean 3, il décrit cette transformation comme ceci. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, remarquez, Nicodème s'approche de Jésus de nuit. Je ne sais pas, mais quelque part, je pense qu'il avait une raison. Mais on n'apprend jamais la raison. Parce que tout de suite, Jésus va lui dire quelque chose de très profond. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et ici, un peu avant son temps, Jésus révèle l'évangile. La bonne nouvelle du fait que l'entrée au royaume est pour tout le monde. Et elle se fait à travers une nouvelle naissance. Une naissance d'eau et d'esprit. Et c'est cette naissance d'eau et d'esprit, l'Église l'a toujours observée à travers les âges. C'est le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Et le don du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit pour les croyants. L'Église a toujours observé cette nouvelle naissance d'eau et d'esprit. Alors je m'approche, je me repens, je suis baptisé d'eau et d'esprit et une transformation s'effectue en moi. J'ai dit une transformation totale et quelqu'un va peut-être se demander, mais à quel point? 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il est une nouvelle création. C'est-à-dire que quelque chose qui n'existait pas avant existe maintenant. Quelque chose de tout neuf. Et tout ce qui était avant, avec la peine, la douleur, la culpabilité, c'est parti. C'est passé. C'est ça l'évangile. C'est ça les différences entre la religion et celui qui nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Amen. Prions un moment, tête baissée, les yeux fermés. Seigneur, notre chemin, toi qui nous diriges par ta parole, par ton esprit et par ta personne même, aide-nous à nous rendre à toi. Et à demeurer en toi, que ton salut transforme nos vies, non seulement pour notre bénédiction, mais pour devenir ta lumière dans le monde, une bénédiction pour tous. Et à toi toute la gloire pour la beauté de ce salut que tu nous donnes gratuitement, maintenant et pour l'éternité. Amen. En continuant la tête baissée, les yeux fermés, peut-être qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui est en train de se dire « J'aimerais vraiment me débarrasser du fardeau que je porte. » Quand on parle de la douleur de la vie, c'est quelque chose que je reconnais. Seigneur, je veux me débarrasser de tout ça ce matin. Quelqu'un peut-être est en train de voir l'évangile d'une façon totalement différente et pour la première fois est en train de se dire, Seigneur, je veux me donner à toi sans réserve. Je veux me donner à toi sans réserve. Seigneur, j'ai besoin de ton Saint-Esprit dans ma vie. Si c'est votre cas ce matin, je veux vous inviter à venir devant. À vous humilier devant Dieu. Et simplement lui demander ce dont vous avez besoin. Amen. Est-ce que quelqu'un veut venir ce matin? Gloire au Seigneur. Jésus, nous te louons. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur est ici pour vous recevoir ce matin.